Marie-Christine Lanier, art et affinité. Comment se passionner pour un violon quand on aime la musique tout entière? Le violon me procure l'indépendance. Je le prends sous le bras et je commence à bourlinguer. Les éditeurs ne peuvent pas me commander ce qu'ils croient qu'il faut écrire. Je n'écris la musique à la commande de personne, si ce n'est à celle de mon âme. Georges Enesco, 1900. Voilà, c'était l'autoportrait d'un musicien surdoué qui parle de son âme. Violoniste et pianiste virtuose, organiste, chef d'orchestre. Mais c'est du compositeur dont Georges Enesco voulait que l'on se souvienne le plus. Il fut aussi un pédagogue visionnaire. Il eut pour élève Yehudi Menuhin, Dino Lipatti. Au début des années 50, le critique musical Bernard Gavotti réalisa un portrait sonore impressionnant de Georges Enesco. Et avec la manière de parler des années 1950, ce fut un cycle de 20 entretiens diffusés par la chaîne nationale de la radiodiffusion française. Enesco se souvient, il évoque son octuore à cordes, né de l'inspiration d'un jeune créateur de 19 ans. Et parfois, il se met au piano et chantonne quelques thèmes. Écoutez-le se comparer à un ingénieur. Un ingénieur lançant sur un fleuve son premier pont suspendu. Alors ça, c'est le côté équilibre architectural. Et pourtant, lorsqu'un Enesco chantonne le premier thème en s'accompagnant au piano, on entend, on devine, le lyrique impénitent qu'il fut, un grain de folie irrésistible.
Il y a de tout dans cet octeur, du Berlioz, peut-être du Wagner, notamment dans le développement du final. D'ailleurs, ce n'est pas sur la personnalité du style que j'ai porté mon effort principal. C'est sur l'architecture. Je veux dire sur la manière de le construire. Songez que cet octeur comporte 4 mouvements enchaînés. Et cependant, chacun de ces mouvements est autonome. Mais toutefois, l'ensemble forme un seul grand mouvement de sonate, extrêmement élargi. Cela dure environ 40 minutes. Ce qui m'a passionné avant tout, c'est la recherche de la structure générale.
Autoportrait sonore d'un compositeur qui revient sur une œuvre de jeunesse. J'ai choisi l'octuor à cordes d'Eugène Enesco pour accompagner la mise en valeur par le musée du Petit Palais du thème du portrait et de l'autoportrait d'artiste dans ses collections permanentes. L'exposition est intitulée « Visage d'artiste » de Gustave Courbet à Annette Messager, jusqu'au 19 juillet 2026. Alors, cette exposition, c'est d'abord une rencontre annuelle et attendue, proposée à partir du fonds extrêmement riche du Petit Palais et sur une thématique, celle de la figure d'artiste qui est l'un des axes forts de la politique d'acquisition de ce musée depuis sa création en 1902. L'exposition se concentre sur le XIXe siècle avec la sélection d'une centaine d'œuvres. Certaines sont tirées des réserves, d'autres récemment acquises ou encore restaurées pour l'occasion. Une exposition toute technique confondue, peinture, sculpture, bien sûr, mais aussi art graphique, art décoratif et photographie. L'originalité réside dans l'invitation qui a été faite à 13 artistes contemporaines, 13 artistes femmes qui interrogent, elles aussi, aujourd'hui, cette thématique de l'identité, de la mise en scène de soi. C'est donc un dialogue entre le passé et le présent, montrer qu'il y a un fil continu, mais aussi cette exposition est un contrepoint, en quelque sorte, à une exposition qui sinon serait presque exclusivement masculine. Si l'on s'en tient aux collections de portraits d'artistes du Petit Palais, seulement 2% sont des œuvres de femmes artistes. Dernier point, le parcours de l'exposition se prolonge à travers les collections permanentes puisque certaines œuvres, en raison de leur fragilité ou de leur taille, n'ont pas pu être présentées dans le cadre strict des salles d'exposition. Et un plan invite les visiteurs à cheminer dans les collections pour les découvrir. Alors, je remercie vivement Jean-Édouard et puis le musicien Stéphane qui réalise cette émission. L'exposition commence avec le thème de l'autoportrait, c'est-à-dire l'éloge du moi. Un premier espace nous accueille avec tous ces regards d'artistes qui convergent vers nous. Et premier point important que je tiens à souligner, ce sont des autoportraits qui furent créés hors commande artistique. L'autoportrait au chien noir de Courbet que vous avez sur l'écran de rc.fr, grâce à Jean-Édouard, s'inscrit dans une très longue série d'autoportraits de jeunesse de l'artiste le plus singulier. C'est le désespéré où il se représente en plein délire, les yeux hagards. Il faut savoir que Courbet a excellé dans la mise en scène de soi. Alors, cette toile du Petit Palais, c'est un jalon essentiel dans sa carrière, car ce fut la première de ses toiles admise au salon. Courbet a 25 ans, c'est un manifeste de sa part. L'image publique d'un jeune artiste ambitieux, et cette ambition est somme toute bien compréhensible. On croit entendre le cri poussé par Rastignac. Vous vous souvenez à la fin du Père Goriot de Balzac, « À nous deux, Paris !» Quel cri! Alors comment s'y prend Courbet? D'abord on le voit se camper en dandy, très élégant. Je note le soin avec lequel il peint les vêtements, le pantalon à rayures, la jaquette avec le revers d'une autre couleur, le col blanc. Et puis c'est un artiste qui nous toise. Je n'ai pas d'autre mot. Avec un regard un peu distant, il est vu en contre-plongée. Autoportrait qui est aussi un manifeste parce que Courbet se présente comme un artiste de sa région natale. On reconnaît les paysages de la Franche-Comté avec les rochers un peu crayeux d'Ornan. Il est né à Ornan. Donc il insiste sur son origine provinciale. Et c'est la première fois que s'affirmait la relation fusionnelle entre Courbet et sa terre. Il se représente enfin avec ses attributs de peintre. Derrière lui, je note le carton à dessin de l'artiste qui va, qui chemine avec un bâton de marche. Celui de Courbet est toujours conservé au musée d'Ornans. Cela renvoie à la pratique du dessin en plein air. Et le chapeau à large bord, le bâton recourbé renvoie au costume du randonneur. Il est assis à côté de son épagneul noir. Il y a un bizarre mimétisme entre le chien et son maître qui tous deux vous dévisagent. Et la silhouette noire de l'artiste se découpe habilement sur la roche crayeuse et celle du chien noir sur fond de nuages bleus. La peinture a été appliquée par endroits au couteau. C'est une technique que Courbève a largement développée par la suite. Dernier rôle qu'il se donne, la chevelure abondante et la pipe tenue à la main font allusion à la bohème parisienne. Donc, je tente de résumer. Dandy, plus bohème, plus provincial, plus randonneur. Autant de facettes d'une personnalité extrêmement complexe. Et la stratégie de Courbet sera souvent fondée sur le coup d'éclat, la provocation. Et ce sera une des clés de sa réussite plus loin dans l'exposition. Vous pourrez voir une caricature de Cham pour le journal Le Charivari. Alors on y voit un Courbet, certes plus âgé, mais totalement ahuri, ébouriffé, désolé de la réaction du public. Et Cham accompagne cette caricature d'une légende. Et ce que je lis, c'est donc Courbet qui parle. « Voilà un bourgeois qui s'arrête devant mon tableau. » Regardez le mot de mépris. « Voilà un bourgeois qui s'arrête devant mon tableau. Il n'a pas d'attaque de nerfs. Mon exposition est manquée. » Bien. Une personnalité représentée dans toutes les sections de l'exposition, c'est le sculpteur Jean Cariès. Et je vous montre son portrait en cire sur l'écran de rc.fr. C'est un autoportrait grandeur nature qui s'arrête très étrangement au genou. Alors, la cire qu'il emploie donne à l'effigie un grand réalisme, mais cette sculpture à l'échelle 1 est vraiment beaucoup trop fragile pour être déplacée. Vous pourrez la retrouver grâce au plan très aisément dans les collections permanentes. Il y a eu une fonte en bronze qui fut placée par les amis de Cariès sur sa tombe au Père-Lachaise au tout début du XXe siècle. Alors, il s'est représenté, ça c'est crucial, il s'est représenté en blouse de travail et tablier de cuir, avec un chapeau de feutre qui était le chapeau de l'ouvrier. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il se présente comme un ouvrier, comme un artisan, et il revendique un statut manuel. Il s'est entouré de ce qui avait un sens pour lui. Il tient une statuette pour montrer qu'il est sculpteur. Mais surtout, je remarque un masque mortuaire que l'on appelle la mère de Cariès, qui est accolée à la base du monument. C'est un visage aux yeux clos et qui contraste avec l'étrange regard fixe de Cariès. Et puis, il y a aussi deux animaux étranges qui sont présents. Alors, la cire, c'était un de ses matériaux de prédilection. Il y a vraiment très peu de sculpteurs de son temps qui ont osé employer ce matériau à une telle échelle pour une œuvre considérée comme achevée. Et aujourd'hui, quand vous irez la voir, vous pourrez vous rendre compte du vieillissement de la matière. Le réseau de fente de la cire est très visible aujourd'hui. C'est une cire teintée, et donc l'œuvre a un aspect hyper réaliste. D'ailleurs, Cariès a fait faire des moulages sur nature de mains, est-ce que ce sont les siennes, je ne sais pas, et d'un torse, et puis il a modelé le tablier de travail. Donc une œuvre à la fois réaliste, avec ce travail à la cire, et symboliste, dans ce rapport très étonnant, les yeux fermés d'un masque mortuaire, idéalisé d'une mère qu'il avait trop tôt perdue enfant, et le regard fixe du fils. Cariès a créé tout un bestiaire fantastique et aussi des masques grotesques en grès émaillé. Et dans la première salle de l'exposition, il explore la thématique de l'autoportrait masqué. Vous pourrez voir quatre masques en grès. Ce sont des recherches d'expressivité. Et d'ailleurs, les titres sont révélateurs. Cariès faisant la moue, masque aux sourcils froncés, masque aux lèvres serrées. Et avec ce masque au nez cassé que vous avez sur l'écran de RC, Cariès, ce n'est pas rien, fait référence à Michel-Ange. Il y a effectivement au Louvre un masque en bronze d'un sculpteur italien du XVIe siècle, un masque en bronze de Michel-Ange. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Que bien naturellement, Cariès se place directement sous l'égide de cette figure tutélaire. Enfin, dans cette salle d'autoportrait surprise, pour le dernier que je vous montre, personne sur le tableau, intitulé Un coin de salon chez le peintre. Juste un fauteuil capitonné rutilant qui trône dans un salon, près d'une cheminée en marbre. C'est un portrait par l'objet, peint par un peintre d'histoire bien oublié, qui s'appelle Jean-François Gigoux. Un portrait en creux d'un artiste qui se représente avec quelques accessoires qui le caractérisent et qui montre, alors là nous sommes à l'opposé de l'autoportrait de Cariès, qui montre une image de réussite sociale. Rien à voir avec la revendication de travailleur manuel de Cariès, parce que sur ce fauteuil, il a très savamment disposé un chapeau haute forme, des gants blancs, une canne, donc les signes d'une vie bourgeoise et mondaine. Georges Genesco, un authentique génie, mais un génie méconnu du grand public en France, encore à découvrir. Il est né en Roumanie en 1881, c'est un Français d'adoption. Il meurt à Paris en 1955. Georges Genesco fut initié au violon dès son enfance par un musicien populaire. Puis il fit ses classes comme jeune prodige au conservatoire de Vienne. Troisième point, il vint se perfectionner au conservatoire de Paris où il étudie, devinez quoi, le contrepoint. C'est une étrange alchimie. Parce qu'il y a à la fois une inspiration populaire roumaine, elle sera parfois discrètement teintée de mélancolie dans toute son œuvre, mais fougueuse aussi. Alors certains interprètes réussissent à capter cela, ont la capacité de transmettre cela, d'autres non. Donc inspiration populaire roumaine. Et en même temps, une inspiration, comment dirais-je, aristocratiquement viennoise, très fin de siècle. Et à 19 ans, il compose un octuor à cordes. Alors vous l'avez entendu en début d'émission, il s'attaque donc de front à la difficulté d'enchaîner quatre mouvements qui seront bien qu'autonomes, liés les uns aux autres, afin de ne former qu'une seule forme géante. Alors on a toutes les audaces à 19 ans, n'est-ce pas? L'octuor à cordes, c'est totalement paradoxal. C'est un flux musical, ça coule pendant près de 40 minutes, mais c'est aussi une architecture d'un seul tenant. Et c'est la raison pour laquelle il comparait son octuor à un pont lancé par un ingénieur. Donc un octuor pour quatre violons, deux altos et deux violoncelles. Alors, il y a des thèmes. Les musicologues en comptent pas moins d'une douzaine. C'est considérable. Il y a des thèmes et il s'agit, si je comprends bien, de faire dériver ces thèmes les uns des autres, ou bien à partir d'une seule cellule génératrice commune, et puis surtout de les faire circuler d'un mouvement à l'autre en les transformant, en les combinant, en les tissant, selon la technique du contrepoint. Le contrepoint, c'est un tissage sonore. Donc une œuvre très complexe dans son écriture qui était dédiée, et c'est important, dédiée à son professeur de contrepoint au Conservatoire de Paris, André Gédalge. Alors le contrepoint, vous le savez très bien, c'est l'art d'entrelacer des lignes mélodiques ensemble. Et là, vraiment, me semble-t-il, UNESCO s'y donne à cœur joie, tant et si bien que c'est quasiment impossible d'arrêter un mouvement d'un autre. Donc vous allez entendre le début du premier mouvement, noté, heureusement noté, très modéré. Ce premier mouvement, c'est une phase d'exposition de nombreux thèmes, au moins six. Juste avant le début du premier mouvement, vous entendrez à nouveau UNESCO chanter et on sent combien chaque thème est porté par une vie, un élan, une liberté rythmique. Donc, en un mot, ça ne doit pas sonner scolaire. Les interprètes que j'ai choisis pour vous seront très... Je vous donnerai leur nom après l'extrait, parce que je pense que vous allez reconnaître quelqu'un. Donc les interprètes sont très respectueux de la partition, bien sûr, mais ils sont aussi très libres dans l'expression, très personnels. Il y a de la vie, de l'élan, je vous disais, je n'oublie pas que UNESCO est né en Roumanie, qu'il y a toute une part de musique populaire au fond de lui, mais il y a aussi beaucoup de précision, donc c'est dense, touffu, mais on doit pouvoir entendre, par exemple, l'alto derrière le violon. Thank you.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Au 19e siècle, les collectifs, les groupes d'artistes se multiplient. Et dans la seconde section de l'exposition, il y a des grands formats qui montrent des réunions d'artistes. C'est l'époque des panoramas. Alors, le principe du panorama est simple. C'est une seule vue peinte qui se déploie en différents épisodes et qui est présentée à l'intérieur d'une rotonde éphémère, donc dans un espace circulaire. C'était une attraction très populaire dans les grandes villes, et le public peut déambuler, cheminer, tourner en rond devant des images, tandis qu'au cinéma, c'est l'inverse, c'est l'image qui est en mouvement et le public assis, immobile. Alors, le panorama, c'était aussi une illusion d'optique parce que le spectateur est immergé à l'intérieur de la rotonde et donc il finit par croire que ce qu'il voit, c'est la réalité. Il y avait vraiment un sentiment de vie. À l'occasion de l'exposition universelle de 1889, Paris proposa dans le jardin des Tuileries un panorama. Vous en avez un fragment sur l'écran de rc.fr, peint par les peintres Henri Gervex et Alfred Stevens. C'est un tableau circulaire spectaculaire de 120 mètres de long, un hommage à plus de 640 personnalités françaises qui s'étaient illustrées au cours du siècle passé. Et le succès fut tel que la rotonde éphémère resta, figurez-vous, 7 ans en place. Alors habituellement, on montrait des paysages ou encore des scènes de bataille reconstituées, mais là, il s'agissait d'une galerie d'hommes illustres. Par la suite, l'immense toile fut découpée en fragments et je vous montre, elle est dans l'exposition, une vue de peintre, donc un fragment, une vue de peintre célèbre. C'est un rassemblement fictif de 14 peintres français. Beaucoup d'entre eux sont des paysagistes. Ils sont représentés dos à la Seine, près de l'île de la Cité. Ah, mais je m'aperçois que j'ai complètement oublié, pardon, de vous dire qui vous deviez reconnaître. Alors, je vous le dirai au prochain extrait de notre musicien. Donc, je poursuis avec le panorama du siècle. Donc, ces peintres sont représentés dos à la Seine, près de l'île de la Cité. Je reconnais Courbet, tout à droite, avec sa barbe, Corot, avec sa pipe, et les autres, ce sont des peintres paysagistes de l'école de Barbizon. L'exposition s'achève avec une maquette de la coupole qui se trouve en haut de l'escalier Dutuy du musée du Petit Palais, réalisé par Maurice Denis et daté de 1925. Et cette composition retrace une histoire circulaire, cette fois-ci aérienne, puisqu'il s'agit d'une coupole de l'art français, donc à la manière d'un panorama. Et à partir de la maquette dans la salle d'exposition, vous êtes invités à regarder la coupole en place en empruntant l'escalier monumental qui se trouve juste sur la gauche à la sortie grâce au plan. Et on a du mal à imaginer que lorsque le Petit Palais a ouvert, il n'était pas entièrement recouvert de décorations peintes. Vous le savez, le bâtiment fut construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. Et Maurice Denis convoque toutes les figures importantes de l'histoire de l'art français, selon lui. Alors, là aussi, les artistes sont le plus souvent représentés au travail. C'est une sorte de panthéon de l'histoire de l'art français. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que maintenant, il y a trois vitrines de médiation tout en haut de l'escalier qui permettent de repérer aisément sur la coupole qui est qui et quels sont les monuments devant lesquels les peintres figurent. Ils sont ainsi aisément identifiables. On peut reconnaître l'architecture des grandes cathédrales médiévales, le château de Versailles, mais aussi la Marseillaise de Rude sur l'Arc de Triomphe, La liberté guidant le peuple de Delacroix, Le penseur par Rodin, etc. Et modestement, Maurice Denis ne s'est pas représenté directement dans la fresque. Elle se termine par un bois sacré qui était un thème qui lui est cher. Il y a dans ces deux panoramas, me semble-t-il, une fierté, vraiment une fierté d'être français, une fierté de toute la culture française. C'est rare, hein, à notre époque, mais je ne vais pas polémiquer aujourd'hui. Je le ferai plus tard. Donc l'affirmation que la culture française existe et qu'on peut en être fier, c'est également la question de la filiation, c'est capital, qui est introduite ici. Et d'habitude, on passe rapidement sous cette coupole. Et là, l'exposition invite à la regarder de plus près avec en plus ces vitrines qui permettent d'identifier qui est qui. Il y a aussi dans cette section de l'exposition des témoignages d'amitié entre artistes. Et alors une sculpture assez dérangeante qui est la grande gagnante, me semble-t-il, de la seconde salle. C'est une terre cuite que vous avez sur l'écran de rc.fr, de Cariès à nouveau, qui représente un peintre totalement oublié aujourd'hui, Eugène Allard. C'est son masque mortuaire voilé. Alors, figurez-vous que c'est un peintre lyonnais qui eut un destin tragique. Il fut assassiné par son modèle à Rome au milieu des années 1860. Et une dizaine d'années plus tard, sa veuve a demandé à Cariès, qui était aussi d'origine lyonnaise, un buste posthume pour honorer la mémoire de son mari. Bien. Alors, Cariès fait un buste en plâtre. Vous pourrez voir l'image sur le cartel. C'est un buste très austère, sans grande envergure. Et vraiment, je vous en fais grâce. Mais il y a autre chose. Pour remercier la veuve de son hospitalité, Cariès va lui offrir une seconde effigie, beaucoup plus explosive. Une effigie beaucoup plus lyrique, funèbre, avec un drapé sur le masque mortuaire du peintre. Alors, c'est extraordinairement puissant. Sur le visage du défunt, un linceul aurait été tiré qui épouse les contours de la tête mais s'en détache par endroits. Il se plisse sur les yeux, sans regard, bien sûr, et sur la bouche, qui est sans souffle. Et ce linceul, c'est un autre visage, un double, comme une deuxième peau, mais elle est déformée, bousculée, tourmentée. Et cela devient le visage même de la mort. Et ça vous appelle. Tentez l'expérience. Vous irez directement vers cette sculpture. Et on pense à la sculpture baroque napolitaine quand vous retournerez à Naples. Je pense au Christ voilé de San Martino, qui est un gisant en marbre, avec ce visage du Christ recouvert d'un extraordinaire linceul transparent. Donc ici, il y a une filiation avec la sculpture ancienne. Et puis on peut penser aussi au portrait de Camille Monet sur son lit de mort, avec, c'est quand même très étrange, Claude Monet, qui a fait très attention au changement de couleur du visage de la morte et qui la représente dans des tons mauves, bleus, jaunes. Voilà, donc il y a toute une filiation. Revenons à l'octeur à cordes d'Enesco. Second mouvement, noté très fougueux, qui s'apparente à un scherzo. Alors c'est une pièce spectaculaire, avec un contraste au début, parce que tout commence par un forte, donc beaucoup d'énergie, beaucoup de vie. Puis on passe à quelque chose d'ondulant, de caressant. Selon les versions, c'est même parfois un peu inquiétant. Et le thème initial du premier mouvement se réincarne. C'est vraiment une réincarnation. On a parlé de la furia, de la sauvagerie des musiques populaires roumaines auxquelles, donc je vous en parlais, Enesco avait été initié dès son enfance en Roumanie. Et c'est presque un drame qui va se jouer ici. Vous allez percevoir des accents impétueux, malgré, je vous rappelle, c'était dédié à son professeur de contrepoint au Conservatoire de Paris. Et c'est cela qui me fascine. Je vous donne enfin les références. Il s'agit, mais je pense que vous l'avez trouvé, il s'agit de l'ensemble dirigé par Gidon Kremer, hein, l'ensemble Kremerata Baltica qu'il avait fondé. Bien sûr, il tient le premier violon. Le disque est enregistré pour le label Nonesuch en 2002. Ce qui m'impressionne, c'est qu'au niveau de l'ensemble de cet ensemble, il y a un ressenti commun entre les musiciens, beaucoup de générosité. Et Gidon Kremer lui-même, himself, ne se met pas en avant. Écoutez. Une section de l'exposition s'intéresse à la question de la filiation. Aucun artiste ne naît de zéro. Les artistes sont devenus ce qu'ils sont parce qu'ils se sont inscrits dans le sillage de grands maîtres. Ils ont pris le train en marche. Ils se sont positionnés par rapport à ces figures tutélaires, la plupart du temps de façon respectueuse, mais aussi parfois avec beaucoup d'irrévérence ou d'ironie. Alors, je vous montre pour la première catégorie une icône du Petit Palais, un tableau d'Ingres. François Ier reçoit les derniers soupirs de Léonard de Vinci, datés de 1818. Alors, très tôt, Ingres, élève de David, fut attiré par ce que l'on a appelé le genre troubadour. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une tentative de mettre à la mode le goût, un goût pour le Moyen-Âge et la Renaissance, et pour une histoire de France qui est racontée sur un mode anecdotique. Et ici, Léonard de Vinci expire à Amboise dans les bras du roi François Ier qui accourt. Imaginez. Donc c'est un tableau de dimension réduite, porcelainé, de facture à la fois très brillante, c'est très rouge, et qui n'a qu'un défaut, celui d'être totalement inexact, imaginaire. Et il est visible que le jeune Ingres, qui séjournait alors à Rome, il ne devait être guère plus âgé que Ionesco, qui compose son Nocturne à cordes pour rendre hommage à son professeur de contrepoint. Donc le jeune Ingres, c'est visible, recherchait cette connivence fantasmée ici établie entre un artiste et son mécène, en l'occurrence le roi de France. Un roi n'a pas d'amis. Avec ce tableau, on sait qu'il répondait à une commande, comme par hasard, celle de l'ambassadeur de Louis XVIII. Nous sommes en 1818, l'ambassadeur de Louis XVIII à Rome. Et Ingres s'inspire ici de Titien pour représenter François Ier. Le Louvre conserve un François Ier, roi de France, vu de profil du maître vénitien, mais on sait aussi que Ingres vénérait Raphaël et on a pu reconnaître dans les vêtements du jeune homme qui désigne d'un geste théâtral le lit de mort de Léonard, ceux du célébrissime portrait de Baldassar Castiglione par Raphaël conservé au Louvre. Toutefois, le style d'Ingres est immédiatement reconnaissable dans la torsion vraiment très exagéré du cou de Léonard qui est complètement renversé en arrière. Diamétralement opposé à la toile d'Ingres, il y a l'irrévérence assumée vis-à-vis des maîtres anciens de Cindy Sherman, l'américaine, qui présente une parodie de la Fornarina ou portrait de jeune femme de Raphaël que je vous montre sur l'écran de rc.fr. Cindy Sherman fait partie des 13 artistes contemporaines, les 13 artistes femmes qui furent invitées par le Petit Palais et qui interrogent elles aussi aujourd'hui la thématique de l'identité, de l'autoportrait, de la mise en scène de soi. Sherman a développé depuis les années 80 une œuvre photographique. Il s'agit d'une photographie de grand format. Une œuvre qui est quasi intégralement consacrée au portrait sans jamais recourir à d'autres modèles qu'elle-même. Et paradoxalement, c'est en disparaissant, elle est maquillée sous sa perruque, affublée de postiches, vêtue de costumes, posant dans des décors, que Cindy Sherman s'est fait reconnaître sur la scène internationale. Alors, c'est elle qui fait tout dans l'image qu'elle propose. Elle se charge du maquillage, de la coiffure et même de la photographie. Elle seule, donc, c'est ce que je comprends, décide de l'image qu'elle met en scène d'elle-même. Et ici, elle reprend la pose de la Fornarina, c'est-à-dire qu'elle, ce n'est pas une belle image, elle s'affuble de prothèses, faux seins, faux ventre de femme enceinte, elle a chiné les vêtements aux puces de Rome, elle porte une perruque, et donc elle laisse volontairement apparent les trucages. Et pourquoi? Pour tourner en dérision, avec beaucoup d'ironie, le portrait dit héroïque dont elle reprend les codes, le cadrage, le format. Manifestement, ce sont les codes traditionnels de la représentation féminine qu'elle n'aime pas chez Raphaël. Ou plutôt, ce que cela sous-entendrait de sexisme de la part de Raphaël. Alors, ah, droit de réponse, parce que c'est, je me l'attribue, parce que c'est justement cela qui, moi, me laisse perplexe. Raphaël, c'est un artiste qui passe aujourd'hui pour le plus compassé peut-être des artistes de la Renaissance italienne. Il y a aujourd'hui clairement un désamour de Raphaël. La tradition voit dans le célébrissime portrait de la Fornarina que vous avez sur l'écran également juste à côté, j'imagine, de la photographie de Cindy Sherman. Donc la tradition voit dans ce portrait celui de la maîtresse de Raphaël. Il avait une maîtresse et les spécialistes de Raphaël disent qu'autrement le pape l'eût fait cardinal tant il était apprécié à Rome. Alors, Raphaël mourut très jeune d'une fièvre très soudaine et ses contemporains firent immédiatement un lien avec la Fornarina. Raphaël décède à 37 ans, et si l'on en croit Vasari, je le cite, il mourut d'un excès de plaisir amoureux. Alors c'est une légende sans doute, mais c'est tout de même, vous me l'accorderez, extrêmement intéressant qu'on ait raconté cela si vite, parce que cela veut dire que la façon dont on regardait l'étoile de Raphaël n'avait rien à voir avec notre regard en 2026, ni celui de Sherman dans les années 80. Aujourd'hui, on n'arrive plus à regarder Raphaël, surtout ses madones. Mais même les madones les plus séraphiques peintes par Raphaël ont, si on accepte de ne plus les regarder comme des images pieuses pour missel de grand-mère, pardon pour cette expression, ces madones ont une langueur voluptueuse, une puissance érotique, l'éros charnel associé à la suavité de l'amour divin, qui était immédiatement perceptible au XVIe siècle par les contemporains de Raphaël, et que nous ne savons plus voir. On voit dans ces madones des visages très sages, quelque chose de très calme, pour ne pas dire de très pieux. On s'ennuie et tout cela est archi faux. Alors que dire de la Fornarina quand on la regarde vraiment? Eh bien, elle est tout, sauf le résultat d'un regard sexiste qui serait posé par un peintre homme sur un modèle femme, ou plutôt sur une femme cantonnée au rôle de modèle par lui, le peintre. Je pense que Sherman s'est trompé. Ce que fait Cindy Sherman, c'est au fond de projeter le type de querelle entre les hommes et les femmes de son époque, c'est-à-dire les années 80 et aux États-Unis, ce que l'on a appelé les gender studies, qui furent des années de revendications féministes Et donc ici, sur un Raphaël complètement fantasmé. La fornarina, mais voyez-vous, c'est elle qui défie la papauté. Il faut vraiment la regarder différemment. Alors, pour clore l'émission, un court extrait du troisième mouvement de l'Octuor d'Ionesco, noté lentement. Ionesco l'a lui-même défini par comme une sorte de nocturne. Il est d'un extrême lyrisme, d'une infinie beauté. Le fils d'Édouard Colonne, le fondateur des concerts Colonne, avait trouvé l'Octuor, je le cite, « horriblement beau ». C'est comme la fornarina. Mais son père riposta en décrétant qu'il était, je cite à nouveau, « plus horrible que beau ». Et après 5 répétitions, il le retira de l'affiche et l'Octuor dut attendre 9 ans avant d'être créé. Écoutons d'abord Ionesco le chanter, puis quelques mesures de ce mouvement et je partirai sur la pointe des pieds en vous disant au revoir.
Et puis vient le troisième mouvement qui est une sorte de nocturne. Ça se développe.
Vous venez d'entendre Art et Affinité dirigé par Marie-Christine Lanier, émission préenregistrée le 11 avril 2026 et diffusée pour la première fois jeudi 16 avril 2026 de 10h à 11h et réalisée par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.